Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
Quelque part dans les montagnes, à quelques kilomètres d'Albi, se trouve une école pas comme les autres, l'école Jeunesse Lumière, une école d'évangélisation où des jeunes du monde entier, ayant entre 18 et 30 ans, viennent passer une année pour grandir dans leur foi et témoigner auprès d'autres jeunes de leur amour de Dieu. Une idée un peu folle qui dure pourtant depuis plus de 30 ans. Voilà pour cette émission donc Vivante Église sur Jeunesse Lumière École d'évangélisation. Je reçois ce matin le père Daniel Ange. Bonjour mon père.
Bonjour à chaque auditeur et à vous-même Emmanuel.
Nous recevons aussi en plateau donc Camille qui a 22 ans qui est étudiante en droit en première année. Bonjour.
Bonjour.
Voilà Mathieu qui a 22 ans donc qui est étudiant lui en BTS aquaculture et qui est en première année de Jeunesse Lumière. Bonjour.
Bonjour.
Esther qui a 20 ans qui est étudiante en anglais et qui elle est en deuxième année de Jeunesse Lumière. Bonjour.
Bonjour.
Voilà, pensez à bien parler devant les micros et tout se passera très bien. Alors on va commencer cette émission avec vous, père Daniel Ange. L'école Jeunesse Lumière, certains connaissent, d'autres pas du tout. Et le père Daniel Ange, pareil. Alors, vous allez dire, c'est pas facile de se présenter soi-même, mais vous êtes quand même un personnage dans l'Église. Comment vous vous présenteriez rapidement en quelques mots ?
En quelques mots, je dirais que je suis simplement un enfant de Dieu, heureux et fier de l'être. Voilà, tout est dit en quelques mots.
Tout est dit en quelques mots, très bien. Toujours est-il que vous avez été, vous êtes consacré, vous avez été moine. Est-ce que vous pouvez nous parler des premières années de Daniel, on va dire, avant la création de l'école ? Vous avez quelques expériences différentes, entre autres en Afrique et une expérience d'ermitage.
Oui, alors en grande ligne, je suis entré à 17 ans chez les bénédictins, type monastère dans quel cas, mais au Grand-Duché de Luxembourg, après mon service militaire comme infirmier dans les hôpitaux militaires en Belgique, j'ai été envoyé fonder une petite fraternité au Rwanda, où je suis arrivé après plusieurs semaines de bateau et d'autostop. Et là, nous avons construit une petite fraternité, d'abord à 2000 mètres d'altitude, près des volcans, ensuite dans une petite île de l'immense lac Kivu. Donc ça a été mes années de grande joie de partager la vie quotidienne de ce peuple dans lequel je suis sur lequel je suis tombé vraiment amoureux. Voilà, et c'est après 12 ans là-bas que j'ai été rappelé par les frères de ma fraternité en Europe et que j'ai subi l'électrochoc, c'est le cas de le dire. C'était après mai 68, dont je ne soupçonnais rien au fin fond de mon Afrique. Et avec toutes les perturbations que ça a entraîné dans l'Église, dans le monde. Alors à ce moment-là, j'ai été envoyé pour continuer mes études de théologie à l'université de Fribourg, en Suisse, où j'ai eu la grâce de découvrir beaucoup d'autres communautés naissantes à cette époque-là, dans toute cette ébullition, j'oserais dire, des nouvelles réalités dans l'Église, et entre autres, ce qu'on va appeler plus tard le renouveau charismatique, que je découvre grâce à un petit groupe de prière international de l'université, apporté par les Américains de Hong Kong. Voilà, c'était mon premier contact avec le renouveau.
Alors, c'est important de le préciser parce que bon, on aura le temps d'en reparler, mais il y a de fait des colorations, on va dire, spirituelles assez diverses dans Jeunesse Lumière qui ressemblent un petit peu à ce que vous êtes ou à votre parcours. En tout cas, donc vous avancez. Est-ce que l'étape d'après, c'est cette partie en ermitage ou est-ce qu'il y a avant une autre étape?
Oui, alors l'ermitage, ça va venir après la théologie parce qu'effectivement, un énorme problème qui m'était posé en voyant ce virus du désespoir en train de bousiller tant de vies de jeunes en Europe occidentale, c'était une énorme question. Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour tout ce peuple de jeunes? Est-ce que ça peut continuer ma vie monastique contemplative au désert, ou est-ce que tu attends autre chose de moi? Et à ce moment-là, mon prieur m'a envoyé en ermitage dans l'arrière-pays de Nice, très très sauvage, reprendre une petite bergerie désaffectée, et là je vais passer cette année à poser cette question au Seigneur. Donne-moi un signe, si tu veux, quelque chose de moi de spécifique par rapport à toute cette jeunesse tellement vite désespérée.
Alors juste, Daniel Ange, comment vous l'aviez rencontré cette jeunesse? Quand vous dites que ça a été un électrochoc, c'est-à-dire il y a eu des rencontres particulières qui vous ont servi d'électrochoc?
Eh bien, effectivement, pendant mes années de théologie à Fribourg, j'avais quand même pas mal de contacts avec des écoles, et j'étais complètement sidéré d'apprendre qu'il y avait même des écoles où certains se suicidaient, etc., etc. Et alors, souvent, je montais dans la montagne, sur les sommets, quand il faisait très froid, dans la neige, pour gagner quelques heures de soleil. Et là-haut, sur les sommets, je voyais tout à fait au loin, avant que le jour ne se lève, toutes les lumières de Nice, de Cannes, d'Antibes. Et j'étais complètement déchiré. Je me disais, moi, j'ai tout, j'ai les pardons, le corps, le sang, la parole de Dieu, j'ai la plus grande famille qui existe sur terre, l'Église, j'ai mes amis au ciel, les anges, les saints, plus heureux tu meurs, et là-bas, eh bien, on se flingue parce que les cœurs sont complètement vides. Donc la question était comment faire passer le courant de vie, d'amour, de beauté depuis l'autel où l'amour se donne en plénitude jusqu'à tous ces bordels où l'amour s'autodétruit. Et c'était ça la grande question. Alors mon évêque me disait d'attendre un signe du Seigneur parce que ça supposerait une nouvelle orientation à l'intérieur de ma vocation monastique. Et le signe est arrivé après 7 années d'attente et d'intercession, où je m'occupais bien, puisque je gardais les troupeaux du berger voisin, et j'écrivais mes tout premiers livres, de ne pas être blessé, etc. Et voilà que le signe est venu sous forme d'un SOS d'un jeune Martin, 17 ans, m'écrivant, mon lycée est un mouroir, 3500 élèves, personne qui écoute, personne qui console, on nous donne tout, sauf l'essentiel, viens nous donner Dieu. Église, n'oublie pas tes enfants. Je résume un petit peu. Une lettre qui a été lue dans un synode romain devant Jean-Paul II, comme exprimant bien le désespoir de tant de jeunes. Et donc, mon évêque, les larmes aux yeux, m'a dit, tu n'as pas le droit de ne pas répondre à ce cri de détresse, je t'envoie, voilà. Et il a même comparé au cri du jeune Macédonien, du jeune Grec, à Saint Paul, viens à notre secours. Et Saint Paul lâche tout et prend le premier bateau et débarque pour la première fois en Europe. Voilà.
Donc c'est les débuts de l'école. Alors cette école, vous l'avez pas, fondée.
C'est ce qui va provoquer 3 ans plus tard la naissance de l'école. Donc je suis parti dans cette école, ça a été une expérience prototype, primordiale, dans cette école de 3500 élèves, et j'ai pu parler à tous les élèves en 3 jours, j'étais rassemblé par groupe de 3 classes en même temps dans l'amphi de l'école, et le soir, comme je logeais sur place, qu'il y avait un internat, et bien toute la nuit, ils venaient me voir seul ou par petits groupes. Et ça m'a complètement bouleversé de voir cette ardente soif de l'essentiel et en même temps vraiment des jeunes littéralement mourant de soif spirituelle, les âmes comme étouffées. Et après ces 3 jours d'intense évangélisation, on a pu réouvrir la chapelle de l'école qui était abandonnée depuis longtemps et on a pu célébrer une première messe avec l'aumônier après de nombreuses années. Ça a été comme un révélateur pour moi. Alors, et donc, c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé par suivre ce rythme d'une tournée d'évangélisation dans les écoles pendant 15 jours, 3 semaines, tous les trimestres.
Alors juste,
donc,
Daniel...
Ce sera finalement le rythme que va adopter l'école Jeunesse Lumière. J'en ai d'abord fait l'expérience personnelle pendant 3-4 années.
D'accord, alors je vous arrête deux secondes juste. Après, il y a donc une autre intuition qui s'est greffée à ça, c'est que vous vous êtes dit qu'en fait, oui, il fallait que ça soit les jeunes qui parlent aux jeunes. Alors comment vous est venue cette autre intuition ?
Tout de suite, attendez, vous m'anticipez la phrase suivante.
Alors, c'est mon métier.
Effectivement, j'ai composé des petites fraternités, mais pas tellement avec des jeunes parce qu'ils ne pouvaient pas quitter leurs études pour m'accompagner. Donc avec quelques adultes, on faisait de ce qu'on appelait des petites brigades d'évangélisation dans le style de la brigade de la fameuse Sainte Catherine de Sienne, venant à Avignon avec tout un petit groupe. Et c'est après quelques mois que j'ai réalisé intensément que la meilleure évangélisation venait des jeunes de leur propre âge, de la même génération. Moi-même, j'étais la génération d'avant. Mais le problème, c'est que effectivement, des jeunes ne pouvaient pas tout interrompre pour m'accompagner. Et j'en ai parlé longuement, car on a lustigé à cette époque. Je recevais d'un côté des quantités de demandes d'école de venir témoigner leur école, auxquelles je ne pouvais pas répondre, il y en avait 30. Et de l'autre côté, des lettres de jeunes m'exprimant leur désir de m'accompagner en tournée d'évangélisation. Alors en mettant l'offre et la demande en même temps, eh bien, on en a conclu que, effectivement, le meilleur moyen, c'était de créer une école pour former des jeunes apôtres et où les jeunes viendraient pour un an ou deux, exceptionnellement une troisième année, pour non seulement se former à l'évangélisation, mais déjà pratiquement l'expérimenter en cours d'année scolaire. Et c'est comme ça qu'est née Jeunesse Lumière, il y a juste 33 ans, cette année.
Alors justement, cela fait 33 ans, donc il y a un certain nombre de jeunes qui sont passés. Peut-être il y a combien de jeunes qui sont passés par votre école ?
Alors ça dépend si on compte uniquement notre école ici dans le Tarn, où là c'est environ un peu plus de 900 jeunes y sont passés, de 58 pays différents, ou bien si on compte les jeunes qui sont passés dans nos écoles sœurs, puisque des anciens de l'école ont fondé à leur tour des écoles Jeunesse Lumière en Pologne, en Italie et il y a deux ans au Bénin. Ça fait toute une petite constellation avec un projet en Tchéquie, en Lituanie, etc. Voilà, plus une petite antenne à Moscou et à Montréal pendant un certain temps, et en Belgique aussi. Donc ça dépend. Donc en tout, je pense en fait tout de même dans les 1200, 1300 qui ont dû passer pendant ces 33 ans.
Alors Daniel Ange, avant qu'on fasse une première pause musicale, j'aurais envie de vous demander, vous avez entendu ce cri dans votre cœur il y a maintenant plus de 30 ans, est-ce que vous l'entendez aujourd'hui toujours avec la même force, et est-ce que vous diriez que le besoin est toujours aussi immense ?
Avec bien plus de force, parce que nous sommes devant une jeunesse montante, une génération qui se lève, qui d'un côté est formidable, toutes les potentialités, une soif de Dieu fantastique, nous l'avons vu avec les manifs pour tous, mais en même temps, une immense vague de jeunesse tellement abîmée par tous les virus d'aujourd'hui, de familles détruites, etc., de jeunes bien plus blessés qu'il y a 30 ans. Donc l'urgence de l'évangélisation est bien plus grande qu'il y a 33 ans. Bien plus grande, et donc ce type d'école répond vraiment à un besoin urgent pour l'Église. À mon avis, chaque diocèse devrait avoir une école pareille, chaque diocèse, tellement il faut former des jeunes apôtres de toute urgence.
Daniel, j'aimerais faire une première pause musicale. D'accord. On n'oublie pas les jeunes qui sont là avec nous. Et puis après, on vous retrouve.
Surtout, ne les oubliez pas.
Voilà, ne vous inquiétez pas, on ne les oublie pas. Et puis après, on va parler un petit peu plus longuement de cette école, savoir ce qui se passe pour les jeunes peut-être qui D'accord. écoutent cette émission et qui seraient intéressés.
D'accord, parfait.
Une force, celle de l'Esprit Saint. Vous deviendrez des apôtres en son nom. Élevez les mains en son nom. Élevez les mains. Saint-Esprit. Viens Saint-Esprit embraser les nations. Viens Saint-Esprit sur cette génération. Viens Saint-Esprit embraser les nations. Viens Saint-Esprit sur cette génération.
Emmanuel Pella.
Ce matin, donc, cette émission Jeunesse Lumière, École d'évangélisation. Je vous rappelle, si vous nous prenez en cours de route, que nous sommes avec le père Daniel Ange, qui est fondateur de cette école d'évangélisation. Camille, qui est dans cette école en première année, qui a 22 ans et qui était étudiante en droit. Mathieu, 22 ans, qui était en BTS aquaculture et qui est dans la première année de cette école. Et Esther, 20 ans, qui est étudiante en anglais en deuxième année. Mais on va faire plus connaissance avec eux au fur et à mesure de cette émission. Alors, le père Daniel Ange, donc, vous nous avez décrit la genèse de cette école pas comme les autres, comme je le disais en introduction, où des jeunes en fait donnent un an pour se tenir auprès de Dieu, se former et après aller témoigner de leur amour de Dieu dans les écoles, et on peut dire en effet que c'est pas très commun. J'aimerais maintenant avec vous tous creuser un petit peu et comprendre ce qui se vit pour nos auditeurs peut-être jeunes qui seraient intéressés, ou pour aussi les plus âgés. La première chose que je voudrais, c'est que vous nous décriviez les lieux. Alors je vous redonne la parole, mais vous inquiétez pas, je vais leur donner la parole aussi aux jeunes qui sont en plateau. L'école est dans un lieu très, très particulier, qui a même été un refuge pendant la Seconde Guerre mondiale. Est-ce que vous pouvez nous décrire ce lieu à quelques kilomètres d'Albi, père Daniel Ange?
Alors, nous avons explicitement voulu un lieu dans un lieu désert, loin des villes et des villages, pour que les jeunes puissent vraiment, surtout la plupart sont citadins, se plonger dans le rythme des saisons, dans la beauté de la nature, qui est une vraie parole de Dieu. Donc nous avons été attirés par la beauté du paysage et par la solitude et le silence. En fait, c'est le cardinal Coffi, qui était alors archevêque d'Albi, qui nous a proposé de reprendre un petit séminaire datant de 1932, qui était à l'abandon parce que c'était trop loin pour les parents de venir chercher leurs enfants chaque week-end, et la maison le convenait parfaitement. Un bon donateur hollandais nous a permis de tout restaurer pour être aux normes, et donc c'est ainsi que nous sommes venus ici 3 ans après le début de l'école, près de Digne.
Donc c'est un petit séminaire qui est perdu dans la montagne.
Voilà, c'est ça, voilà, mais qui était à l'abandon depuis 3 ans, dans un état de vétusté. Nous avons pu tout remettre au propre, aux normes, grâce à la générosité de plusieurs personnes.
Alors, on va, description faite des lieux, peut-être, je sais pas, l'un ou l'autre a une réaction, la première fois qu'il est venu, qu'est-ce qu'il a pensé, c'est quoi,
c'est comme un...
Alors, je leur demande, vous inquiétez pas, Mathieu, je sais pas, c'est un petit nid d'aigle dans la montagne, non c'est...
Ah oui, j'étais vraiment surpris par... par le fait que ce soit aussi isolé, et parce que je m'attendais quand même à ce qu'il y ait des villes assez proches, et en fait non, on est vraiment perdu au milieu de la montagne avec aucune lumière. Par exemple la nuit, on peut voir les étoiles comme nulle part ailleurs, parce que aucune pollution lumineuse pour exprimer à quel point l'école est perdue au milieu de la montagne, et c'est très agréable.
Alors cette école, donc il faut quand même sauter le pas au milieu de ses études, de prendre un an pour aller dans une école d'évangélisation. Vous, Esther, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous avez sauté ce pas il y a maintenant 2 ans? Qu'est-ce qui vous a décidé? Comment vous avez entendu parler de Jeunesse Lumière?
Ouais, longue histoire. Alors en fait c'était...
Vous n'êtes pas obligé de rentrer dans tous les détails.
Non, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en fait c'était pas du tout prévu de prendre une année comme ça, surtout donner gratuitement en fait pour Dieu. Et c'était en fait à la fin des grandes vacances, je savais toujours pas quoi faire à la rentrée, je voulais pas continuer les études parce que je savais pas quoi faire. Et voilà, j'avais besoin de me poser, de me fortifier dans quelque chose, et évidemment cette chose c'était la foi, c'était en Christ, j'avais besoin de me fortifier dans le Christ. Et en fait c'était pendant un temps d'adoration, Je me suis vraiment posée devant le Seigneur et j'ai dit, bah écoute, qu'est-ce que tu attends de moi? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse à la rentrée? Et à ce moment-là, j'ai eu l'intuition en fait d'ouvrir ma Bible. Ça m'était jamais arrivé avant. Et je suis tombée sur une parole un peu plus claire qui disait, en gros, tu proclameras une année de grâce au nom du Seigneur ton Dieu. Et donc là, je me suis dit, bon, bah voilà, c'est bon, il faut que je prenne cette année. Et deux jours après, un prêtre qui m'interpelle. En fait, à ce moment-là, j'étais en désert dans une communauté religieuse. Et en fait, au fil de la discussion, il me demande où est-ce que j'en suis au niveau de mes études, tout ça. Il me dit, mais est-ce que tu as pensé à Jeunesse Lumière? Et je connaissais pas du tout cette école. Il m'en a un peu parlé, et voilà, il m'a parlé des missions, que c'était une année avec des jeunes. Voilà.
Père Daniel Anjuste, c'est vrai qu'on a envie de vous poser une question, c'est que depuis 30 ans, je sais pas si vous faites de la pub, mais faire venir des jeunes de 54 pays, il faut le faire quand même. C'est quoi? C'est juste l'opération du Saint-Esprit?
Je suis moi-même sidéré, je me demande comment ils entendent parler de GIE, car nous ne faisons pratiquement aucune pub, ça coûte trop cher de mettre des pubs dans des revues, mais ça se fait un peu connaître à travers les missions, parce que tout de même, au cours des missions, c'est tout de même des milliers d'élèves qu'on rencontre. Là, nous sommes répartis en ce moment en 5 différentes fraternités. Il n'y en a qu'une seule sur Toulouse, mais il y en a 4 autres qui circulent partout en France, en Belgique et au second trimestre en Europe. Et donc, ça se fait connaître surtout à travers les missions, je pense. Voilà.
En tout cas, voilà, c'est aussi pour vous le miracle, c'est le signe que c'est un appel de Dieu, confirmé.
Oui, je pense. C'est que chaque année, il nous est donné des secondes années pour être aînés par rapport au nouveau. C'est aussi un cadeau de Dieu, chaque année inespéré et chaque année redonné par le Seigneur.
Alors, il y a dans cette école, donc voilà, une fois qu'on a décrit les bâtiments et qu'on sait pourquoi les jeunes viennent, il y a quelques piliers qui sont en fait ce que vous essayez de donner à découvrir ou à fortifier chez ces jeunes. Est-ce que vous pouvez nous décrire ces quatre piliers, peut-être le premier, avant les avoir. Donc je vais les citer. Il y a la vie de prière, la vie fraternelle, la formation et la mission. Alors commençons par la vie de prière. Là-bas, ils ont une vie presque de moine, non? Pourquoi? Alors évidemment, on imagine son importance, mais qu'est-ce que vous diriez sur la vie de prière avant qu'on les fasse témoigner?
C'est avec la prière, ça englobe toute la relation personnelle avec le Seigneur Jésus. Et ça, c'est l'essentiel, c'est la base de tout. Pour parler au cœur des jeunes en mission, il faut devoir avoir vécu ce cœur à cœur avec le Christ éternellement jeune. Voilà, suivant le mot du psaume, qui regarde vers lui resplendira. Ça veut dire que nous évangélisons par resplendissement de lumière, par contagion de joie, mais nous puisons cette joyeuse lumière vraiment dans le cœur de Jésus. Donc c'est vraiment le fondement absolu de tout le reste en déduit. Et toute la vie de prière est avant tout centrée sur le cœur de notre vie qui est l'Eucharistie. Voilà. Mais là, je laisse aux jeunes...
Alors exactement, on va leur donner la parole. On va donner la parole à Camille. Camille, de fait, je disais, c'est un rythme quasi monastique. Est-ce que pour vous, ça a été un électrochoc quand vous êtes arrivé dans cette école d'évangélisation?
Alors, pour moi, personnellement, non. Mais je pense qu'effectivement, c'est un rythme de prière qui est totalement différent de celui qu'on peut trouver dans le monde, même quand on est catholique pratiquant.
Vous voulez dire que avec vos parents, vous aviez déjà un rythme quasi monastique ou...
Moi non, mais j'avais passé quelques mois dans un monastère avant. Donc la transition a été un petit peu différente de celle, je pense, de beaucoup de jeunes que je retrouve cette année. Mais en tout cas, comme l'a très bien dit Daniel Ange, pour nous, c'est la source, hein, c'est la source de tout. C'est là donc qu'on puise la force de vivre les trois autres piliers, notamment la vie fraternelle. Et alors pour le rythme...
Le rythme, alors décrivez-nous, oui. comment ça se passe une journée de prière normale à Jeunesse Lumière?
Alors déjà on se lève et nous avons les laudes, donc la prière de louange du matin, qui est un office liturgique qui est préparé et animé par les élèves, par une petite fraternité qui en est chargée pour la semaine, voilà, qui dure à peu près une demi-heure. Et après ça, nous avons une demi-heure d'oraison silencieuse, de prière personnelle chacun. Alors pour l'instant c'est chacun tous dans l'église, donc c'est chacun avec le Seigneur, mais en même temps on vit tous ensemble ce moment d'intériorité. C'est très beau. Et ensuite nous avons un autre temps de prière à midi qui s'appelle l'Exultet, qui est un temps de louange, un temps d'action de grâce pour déjà tout ce qui a pu se passer pour la matinée. Et une prière de demande aussi pour venir bénir la suite de la journée. Voilà. Et ensuite, nous avons l'Eucharistie, donc à 17h, entre 17h et 18h, le programme varie un petit peu, qui est la source et le sommet de toute vie chrétienne, mais aussi de la vie à JL. Parce que c'est vraiment dans cette rencontre avec le Seigneur, voilà, que je l'ai dit, hein, qu'on vient puiser dans l'amour la force de vivre l'idéal qui nous est proposé à Jeunesse Lumière.
Et puis après l'Eucharistie, vous repriez le soir encore.
Et on reprit le soir, oui, voilà, effectivement. On dit les complis tous ensemble, donc la prière du soir, après une veillée. Et très souvent, assez régulièrement, oui, plusieurs fois par semaine, nous avons une demi-heure d'adoration. Le soir.
Alors, c'est évidemment très intime parce que ça parle de votre relation au Seigneur, mais qu'est-ce que vous diriez que vous avez appris, même si vous venez, enfin, d'une certaine manière, vous venez d'arriver, puisque vous êtes arrivé quoi, au mois de septembre ?
Oui, c'est ça.
Je sais pas, qu'est-ce que vous avez appris en deux mois en matière de vie de prière ? Qu'est-ce que vous diriez à nos auditeurs ?
En matière de vie de prière, j'ai appris, je pense, l'importance... de manière encore plus profonde que ce que je vivais déjà avant, de se recentrer plusieurs fois par jour et régulièrement dans la présence du Christ. Voilà. Et que ça, c'est quelque chose à vivre effectivement personnellement, mais que quand c'est vécu avec les gens qui partagent notre quotidien et avec lesquels on a l'espérance de construire une communion fraternelle belle, on ne peut pas se passer de construire cette relation d'intimité avec le Christ. Parce que c'est en lui, c'est dans sa vie, et c'est dans ce qu'il nous dit de lui-même qu'on trouve l'exemple et une espérance aussi de pouvoir... Mathieu va vous parler de la vie fraternelle tout à l'heure, mais ça suppose quelques difficultés, et que le Christ vient transformer. Voilà.
Voilà, Daniel Ange, vous avez des bons élèves. Vous voulez rajouter quelque chose ?
Oui, je voulais rajouter qu'il ne faut pas oublier une particularité très forte, c'est que le vendredi, chaque vendredi, est une journée de désert, c'est-à-dire c'est le silence complet dans toute la maison, et chacun peut prendre des heures de solitude, de lectio divina, d'adoration. Donc chaque semaine, il y a cette grande journée où il n'y a pas de cours, il n'y a pas de repas en commun. Elle se termine juste par la vénération de la croix, puisque c'est le vendredi, et par un temps de lecture par fraternité de l'évangile du dimanche, le soir. Et tout le reste, chacun est seul avec son Seigneur. Voilà,
précision faite. Alors, il y a un autre grand pilier qui est la vie fraternelle. Alors, c'est pareil, Daniel, je vous propose d'introduire ce pilier, et puis après, on va laisser la parole à Mathieu.
Eh bien, je pense que c'est là aussi quelque chose d'absolument capital, parce que, disons, l'école veut être un atelier où l'on forge nos armes de demain, quelle que soit notre future vocation. Et donc, tout ce second pilier est axé sur le regard prophétique, c'est-à-dire apprendre à voir toujours le meilleur, le plus profond, le plus vrai, le plus authentique en chacun, et non pas ses défauts, ses petits côtés, ses blessures, que sais-je, ses limites, ses carences, mais d'abord vraiment se laisser émerveiller par ses dons et charismes. Et donc chaque année, on commence avec la messe d'ouverture de l'école, où chacun reçoit l'autre comme un cadeau du Seigneur. Il dit à chacun, merci d'exister, j'ai confiance en toi, j'ai besoin de toi cette année, sous-entendu pour devenir vraiment un enfant de Dieu, et enfin, tu es un cadeau de Dieu pour moi. Et en fin d'année, le dernier jour, on fait ce qu'on appelle un procès de béatification mutuelle anticipée, c'est-à-dire chacun devant tout le monde dit à chacun tout ce que Dieu lui a parlé à travers lui ou elle, tous les dons, tous les talents qu'on a découverts dans l'autre. Ce sont deux pôles de toute l'année, au début et à la fin. Et entre deux, Mathieu va vous en parler tout de suite. Je lui laisse le micro.
Très bien. Vous voyez, vous pouvez faire l'émission à ma place. C'est l'avantage avec vous, Père Daniel. Je plaisante, je vous taquine. Alors Mathieu, peut-être la vie fraternelle, qu'est-ce que vous rajouteriez ? Puis après, j'ai quelques questions. Pensez à bien parler devant le micro.
Oui, alors déjà, comme il l'a dit, je pense que ce regard prophétique nous permet déjà d'aborder notre vie fraternelle d'une autre manière qu'on le vivrait dans le monde. Et
Alors, par essayer de parler à la première personne, c'est-à-dire que pour vous, je sais pas, qu'est-ce que ça représente cette vie fraternelle? Est-ce que c'est une nouveauté? Et si oui, comment ça vous touche ou ça vous rejoint?
Ben, déjà, on a ce qu'on appelle le célibat d'amour, donc c'est-à-dire qu'en fait, on est des filles et des garçons à Jeunesse Lumière, on est mélangés et en fait, ce qui nous est demandé, ce à quoi on s'engage, c'est que même si, enfin, admettons qu'on tombe amoureux d'une personne, de ne pas se déclarer avant la fin de l'année et même essayer de ne pas le montrer pour éviter déjà qu'il y ait des sous-communautés qui pourraient se créer, c'est-à-dire que voilà, les deux resteraient ensemble et se couperaient de cette vie fraternelle, et même pour éviter de créer des jalousies. Et après, il y a aussi un axe très important qui est le pardon, c'est-à-dire que...
Alors juste, on va rester justement sur ce célibat d'amour, comme vous dites. On imagine que c'est quand même pas commun aujourd'hui pour des jeunes de vivre ça. Est-ce que pour vous c'était, je sais pas, une nouveauté, une révélation, et qu'est-ce que ça représente pour vous? Est-ce que vous le vivez bien, et si oui, pourquoi?
Oui, je le vis même très bien, parce que dans ma vie d'avant, enfin, on avait plutôt, enfin, j'avais personnellement plutôt l'habitude d'aller très vite avec les personnes, entre autres avec les filles, et donc du coup, ça me permet d'avoir un autre type de relation, d'aborder différemment, ouais, les relations que je pourrais avoir avec les filles et les découvrir différemment.
Oui, et ça veut dire quoi, les découvrir différemment? C'est-à-dire que vous avez l'impression que vous, je sais pas, vous découvrez vous-même et vous découvrez les filles sous un autre jour, un autre regard?
Oui, bah, je me dis qu'on peut avoir de vraies belles amitiés avec les filles sans pour autant, voilà, passer le cap de la relation plus fusionnelle, quoi.
Voilà, vous vouliez parler du pardon, et puis après peut-être qu'on redonnera la parole au Père Daniel Ange. Vous dites l'autre aspect essentiel de la vie fraternelle, c'est le pardon. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que, je sais pas, vous couchez pas sans vous être demandé pardon? Est-ce qu'il y a des rituels de pardon qui sont installés dans cette école?
C'est exactement ça, en fait. Dès qu'on pense qu'on a pu blesser une personne, on va chercher, avant le lendemain, à lui demander pardon, essayer toujours de comprendre l'autre et de voir aussi si le problème ne vient pas de nous, au lieu d'être toujours, souvent on a tendance à remettre la faute sur les autres, mais voilà, toujours essayer d'être juste et compréhensif les uns avec les autres, et ça crée vraiment une ambiance fraternelle très, très belle, quoi.
Donc dès que vous avez l'impression que vous avez blessé quelqu'un, vous allez le trouver. Mais alors imaginons que si quelqu'un vous a blessé, qu'est-ce que vous faites du coup? C'est quoi la procédure, Daniel Ange, dans ces cas-là?
On est dire que chaque soir après complice, il y a la possibilité de se bénir mutuellement en se faisant une petite croix sur le front, comme on fait dans une bonne famille chrétienne. Et donc si jamais il y a eu un petit conflit, une petite dispute dans la journée, on ne peut pas se bénir honnêtement, les yeux dans les yeux, sans demander à la personne de nous pardonner. Alors ça ne veut pas dire que c'est un règlement de compte, mais tout simplement, au cas où je t'aurais fait un peu de peine aujourd'hui, je te demande pardon, vous voyez. C'est une chose très très simple, très spontanée, mais c'est pour apprendre à le faire plus tard, dans nos futures familles, ou voilà.
Ou futures communautés religieuses. Alors on avance, il faut qu'on avance, parce que le temps est compté. Peut-être le troisième pilier, vous pouvez peut-être aller plus rapidement, même s'il est important, Daniel Ange, sur la formation. Quel est le but de cette formation? Qu'est-ce que vous leur donnez? Vous leur faites faire quoi? Alors, un peu de philo, capital, un peu de théo?
Il y a d'abord tout un aspect de guérison de notre intelligence, faire sauter toutes les caricatures sur Dieu que le monde peut véhiculer. Donc nous approfondissons tous les grands mystères de notre foi, avec comme base évidemment le catéchisme de l'Église catholique, mais nous avons aussi toute une série de cours sur des questions et des problèmes d'actualité, car en mission nous devrons répondre. On sera bombardé avec des tas de questions sur tous ces problèmes, tout ce qui touche à la bioéthique, à la sexualité, à l'islam, au judaïsme, au secte, à l'ésotérisme, etc. Donc nous avons bien aussi un cours sur la famille, sur la sexualité, c'est très travaillé, sur tout ce qui concerne la vie. Donc ça fait des programmes très chargés. Nous avons 15 heures de cours par semaine, par session, qui vont du lundi au jeudi midi. Quelquefois, nous avons deux sessions en une, c'est-à-dire deux sessions plus courtes de 2 jours. Et donc, ça fait même 27 semaines avec des cours très, très denses. Voilà, et ça, c'est capital, justement, pour nous enraciner dans la splendeur de la vérité, pour pouvoir la rayonner ensuite.
Alors, on va faire une deuxième pause musicale. On vous remercie beaucoup, Père Daniel Ange. Et puis après, donc, on va parler mission. Ça sera donc le quatrième pilier. Et puis, on va l'illustrer. Vous allez nous décrire, d'accord, vous, les jeunes en plateau, ce que vous vivez à l'occasion de ces semaines de mission. Et puis, vous allez nous donner votre témoignage. Ce matin, donc, cette émission Vivante Église sur Jeunesse Lumière, école d'évangélisation. Si vous nous prenez en cours de route, nous étions jusque-là avec le père Daniel Ange, qui est fondateur de cette école, donc école un peu singulière, je le disais en introduction, qui est à quelques kilomètres d'Albi, perdue dans les montagnes, où des jeunes donnent un an ou plus pour se former pour une vie de prière, une vie fraternelle, une vie de formation et de mission. Et nous sommes en plateau donc avec Camille, Mathieu et Esther, qui tous trois donc ont aux environs de 20 ans, si je ne me trompe pas, c'est ça, 20 ans et 2 fois 22 ans, et donc sont en première ou en deuxième année de cette école. Alors, le dernier pilier dont on n'a pas parlé, c'est la mission. Esther, dites-nous tout, puisque le père Daniel Ange nous a quittés, sur la mission. Je ne sais pas, qu'est-ce que ça veut dire déjà, la mission ?
La mission, c'est, en tout cas à Jeunesse Lumière, c'est l'idée, c'est vraiment en fait de donner tout ce qu'on reçoit dans l'école. C'est assez particulier ce qu'on vit cette année. C'est une année un peu off, ou en tout cas un peu reculée de l'agitation du monde. Moi, j'aime bien dire ça comme ça. Et on reçoit énormément de joie. On se porte, enfin tous les jeunes qui sont dans cette école, on se porte mutuellement, quoi. On se tire vers le haut. Et on peut pas garder tout cet amour et cette joie de connaître Jésus. Et du coup, on part sur les routes dans le monde entier, ou presque, pour en parler, quoi.
Dans le monde entier. C'est-à-dire que le père Daniel Ange, j'avais l'air de dire que vous partez pas en mission qu'en France. C'est-à-dire que parfois, on vous envoie dans le monde entier. Ça veut dire quoi, par exemple?
Alors, dans le monde entier, si on change de continent, ce sera beaucoup plus rare, évidemment. C'est surtout en France. Mais ça arrive, surtout au deuxième trimestre, de partir plus en Europe. Voilà. Donc, si j'y arrivais en Pologne. L'année dernière, je signais une fraternité qui était partie en Italie, une autre en Lituanie.
D'accord, donc vous partez donc en mission. Alors vous partez donc à quelques-uns.
Ouais.
Et pendant une semaine, vous
pendant
faites quoi?
Deux
vous,
semaines.
Allez, vous allez rencontrer des jeunes dans des écoles. Comment ça se passe?
Oui, c'est ça. Il y a plusieurs lieux d'évangélisation. Vraiment, JL a été conçu pour évangéliser des jeunes, en fait, parler de Jésus à des jeunes. Parce qu'on est jeune et du coup c'est plus facile. Et puis voilà, c'est fait pour des interventions en classe. Et ça arrive souvent d'aussi on fait de l'évangélisation de rue. Donc soit on distribue, par exemple ce matin, nous on était dans la rue et puis on proposait une soirée de prière avec un temps de partage à la fin. Et puis la messe animée par des jeunes.
Et quand c'est pas dans la rue, c'est donc dans des établissements scolaires où vous parlez, en fait, vous discutez avec les jeunes, c'est ça?
Oui, c'est ça.
Donc là, en tout cas, c'est ce que vous allez vivre à Toulouse. Donc pendant une semaine, vous allez faire le tour des établissements scolaires toulousains.
Oui, tout simplement. On va voir les classes d'un collège.
Alors, sur la mission, même question, avant qu'on donne la parole aux deux autres. Je ne sais pas, Esther, vous, qu'est-ce que vous avez découvert? Est-ce que c'était la première fois que vous faisiez de la mission? C'est quand même pas facile, on imagine, quand vous vous retrouvez devant un amphi. On ne peut pas dire que les gens, de prime abord, doivent être très, très accueillants, non?
Bah, ça dépend. C'est vrai que je ne connaissais pas la mission avant l'an passé, du coup. Mais globalement, à part surtout quand c'est de l'évangélisation de rue, les gens se disent pressés ou prennent pas forcément le temps de comprendre en fait ce qu'on aimerait nous apporter. On n'essaie pas du tout de convertir les gens, c'est pas notre but. C'est vraiment de communiquer cette joie qui nous habite et qu'on a envie de partager à tout le monde, qu'on aimerait que tout le monde connaisse ça. Mais globalement, je trouve qu'on est... Les jeunes sont réceptifs quand même.
Dans les écoles,
oui.
Tout de suite, les jeunes vous font
pas
bon accueil.
Pas tout de suite. Il faut un premier contact. Mais quand on parle de nous, quand on livre nos témoignages, tout de suite, il y a quelque chose qui se crée. Il y a un lien. Et
c'est ce qu'on va faire maintenant justement. Alors, merci beaucoup Esther. Donc on va commencer par vous Mathieu. Comme ça, ça alternera filles garçons. Donc ce que je vous propose, c'est de nous donner rapidement votre témoignage. Alors, je vais vous guider pour ça, de façon à ce que nos auditeurs déjà, enfin, soient édifiés par ce que Dieu a fait dans votre vie, et puis peut-être pour illustrer justement la démarche qui est la vôtre quand vous allez dans les écoles. Alors dites-nous. Donc je disais en introduction, vous avez 22 ans, vous avez fait un BTS aquaculture. Vous êtes en première année de Jeunesse Lumière. Oui. Comment Dieu est rentré dans votre vie, Mathieu?
Alors, premièrement, par mes parents et mes grands-parents qui m'ont transmis leur foi. Mais bon, après, entre-temps, l'adolescence est passée. J'ai abandonné la foi parce que...
Et derrière vous, l'adolescence? Non, pardon, je vous taquine. Allez-y, ouais. Mathieu.
Et donc, du coup... En tout cas, je suis revenu à Dieu parce qu'en fait, j'étais vraiment dans un vide de sens et dans une détresse. Et donc, j'étais à la recherche d'une solution. Et donc, d'abord, je me suis penché un petit peu sur ce qui était un petit peu New Age ou bouddhisme, etc. Et puis à un moment donné, je sais pas, j'ai essayé de prier de nouveau. Et...
Alors excusez-moi, je veux pas être indiscret, vous répondez pas si vous voulez pas, mais quand vous dites que vous étiez dans une détresse, ça veut dire quoi? Je sais pas, qu'est-ce qui était difficile dans votre vie? Qu'est-ce qui était pour vous source de souffrance?
Ben, ayant abandonné la foi, ce qui était source de souffrance en fait, c'était que ben, déjà je faisais des études qui me plaisaient pas. Socialement, voilà, j'étais vraiment seul et puis je voyais la vie comme finalement on grandit, enfin on fait des études, on va travailler, on arrivait à la retraite, ben on est vieux et puis après donc on peut pas faire grand chose et puis après on meurt. Et puis je me voyais donc dans cette vie avec rien qui voilà qui me disait la vie est belle quoi. Et
vous posiez des questions sur le sens de la vie justement?
Oui bah justement, et c'est comme j'en trouvais pas que finalement il y avait ce vide et donc je faisais un petit peu n'importe quoi pour voilà pour un petit peu raviver mon quotidien. Bah j'étais en alternance en fait, et le soir quand je rentrais du travail, j'avais l'habitude de boire et même de boire, et puis quand j'étais à l'école avec les amis ou même seul, je fumais, et enfin voilà, pas seulement des cigarettes, et comme beaucoup de jeunes le font d'ailleurs actuellement, c'est devenu quelque chose de très récurrent.
Est-ce que avec qui vous partagez vos questions existentielles? Est-ce que vous les posiez tout seul le soir dans votre tête et dans votre chambre, ou est-ce que vous arriviez à trouver des gens pour parler de ces questions qui vous traversaient?
Bah non, c'est d'ailleurs ça qui fait beaucoup de bien à Jeunesse Lumière, c'est que ces questions peu de jeunes se les posent, ou plutôt ils ont pas spécialement envie de se les poser. Quand je les mettais sur la table, finalement, tu te poses trop de questions, voilà, c'était le genre de réponse que j'avais, te pose pas tellement de questions, profite. Et non, du coup, j'avais personne à qui parler de ces questions, donc j'étais vraiment seul dans ma détresse.
Et vous dites que, enfin, vous pressentez que, comment dire, c'est une détresse qui est partagée. C'est-à-dire que même si autour d'une cigarette ou plus, en fait, on parle pas de questions existentielles, vous intuitionnez que les autres se posaient les mêmes questions, en fond, ou que le malaise pouvait avoir la même origine?
Alors,
c'est difficile à répondre.
Oui, c'est difficile à répondre. Je pense que pour certains, oui. Mais après, oui, pour d'autres, je pense qu'ils sont, ils ont réussi à, depuis leur plus jeune âge à se faire cette idée, même ce que, bien que je trouve ça horrible, en fait. Moi, je pense que j'ai eu cette éducation quand j'étais jeune. Mes parents m'ont montré ce que c'était cet amour, finalement, de Jésus. Et je pense que quelque part, ça m'a manqué au bout d'un moment parce que je savais ce qu'il y avait. J'avais déjà vu cette lumière, déjà, j'avais expérimenté l'amour de Dieu. Et je pense que le fait d'en avoir été coupé, ça m'a causé une grande souffrance.
Qu'est-ce qui s'est passé après ? C'est pareil, vous répondez pas si vous êtes indiscret, mais vous avez renoué avec Dieu. Ça veut dire quoi dans ces cas-là de renouer à Dieu, avec Dieu ? Comment vous expliqueriez peut-être aux auditeurs qui ont pas la foi ?
Je me suis remis à prier. J'ai essayé de mener aussi une vie qui pourrait peut-être un petit peu plus lui plaire et déjà qui me... Parce que en fait, donc quand j'étais loin de Dieu, quand j'étais dans cette détresse, comme dit, je buvais, je fumais, je dormais peu parce que je jouais aussi beaucoup aux jeux vidéo jusqu'à pas d'heure. Donc finalement, j'avais la tête remplie de... je m'éloigne du sujet là. Qu'est-ce que veut dire renouer avec le Seigneur ? C'est de nouveau communiquer avec lui, de nouveau réapprendre à l'aimer et déjà accepter aussi cet amour qu'il nous donne. Et voilà.
Voilà, c'est bien, c'est bien résumé. Non, mais merci beaucoup de votre témoignage. Alors, on va se tourner, je me tourne vers vous maintenant, Camille. Vous, on imagine que c'est un petit peu différent. Je vous propose cet exercice parce que je sais que c'est ce que vous faites devant les jeunes et qu'après, c'est probablement ce qui permet d'enclencher une conversation avec eux. Vous, Camille, pareil, si vous deviez nous décrire comment s'est passée votre vie avec le Christ.
Alors, tout d'abord, je viens d'une famille qui ne connaît absolument pas le Seigneur. J'ai quand même été baptisée très tôt. J'ai même fait ma première communion et ma confirmation. Mais alors, sans aucun sens, tout simplement parce que c'était proposé par l'école et que, de manière assez automatique, mes parents m'ont accepté. Voilà, mais on m'a jamais parlé ni de prière, ni du Seigneur. Et j'ai même été élevée dans un climat de méfiance vis-à-vis de l'Église. Voilà. Mais en revanche, moi j'ai toujours été vraiment en quête de sens. J'étais une petite fille assez malheureuse pour ça. J'étais très très tôt habitée par la question de la mort, du terme, du fait que tout était limité. Et donc de mettre du sens dans chaque choix, dans chaque jour. Et j'ai grandi comme tous les jeunes d'aujourd'hui dans une culture qui est en manque de repères, et donc j'ai manqué d'exemples, j'ai manqué d'adultes qui ont su répondre à mes questions, tout simplement parce que certainement ils n'ont pas les réponses. Donc j'ai grandi vraiment dans un climat d'insécurité, de non-sens, et donc au moment de l'adolescence, tout ça, ça m'a projeté dans des souffrances et des expériences de vie que j'aurais préféré pas ne pas faire. Notamment à 12 ans, cette question de la mort est revenue très très fort. Et j'ai fait une expérience qui a un peu bouleversé ma vie, c'est celle de me rendre compte de manière très consciente qu'un jour dans ma vie, je vivrai mon dernier souffle, un moment où je me rendrai compte que je vais mourir et que c'est fini. Voilà. Et ça, sans Dieu, c'est que c'est fini, ça veut dire qu'il n'y a plus d'existence après. Alors là, tout nous semble vain, et à partir de ce moment-là, j'étais petite, hein, j'avais 12 ans, tout est devenu encore plus fade, encore plus rien n'avait de sens, vraiment. Aucun adulte pour me comprendre, les jeunes autour de moi qui me disaient un peu comme Mathieu a dit tout à l'heure, moi, tu devrais changer, tu devrais arrêter de te poser ces questions, tu serais moins malheureuse. Voilà, et puis des adultes qui disaient un petit peu la même chose. Donc là, j'étais très triste. J'ai fait un petit peu de... Oui, j'ai commencé à plus trop aller en cours, à avoir des comportements un peu autodestructifs, hein, la cigarette, et puis plus je grandissais, après, la jeunesse aujourd'hui, on est préservé de rien, donc ni de la drogue, ni de l'alcool, ni de... je pense que j'ai reçu une bonne éducation, j'ai été préservée, donc ça a jamais été... Je pense qu'il y en a qui ont fait des expériences pires, vraiment, mais voilà, là-dessus j'étais très abîmée, et puis ensuite... et puis après j'ai eu des profs aussi qui m'ont beaucoup parlé du gender, donc de ce fait en fait qu'on puisse un peu choisir son identité, voilà, donc même moi en tant que jeune fille dans le monde,
identité sexuelle, oui. Dieu sait si on en parle à cette antenne, oui.
C'est ça,
sans vouloir prendre position, allez-y, continue.
Donc ça, c'était très très dur, hein, au moment de l'adolescence, d'avoir ni sens, ni terme, ni personne à qui le partager, et en plus, aucun exemple, quelle femme j'allais devenir, et à quoi le monde m'appelait. Voilà. Et pourtant, j'étais brillante à l'école, malgré tout ça, malgré mon absence.
En toute modestie, bien sûr.
Exactement, en toute humilité.
Voilà. Et alors, comment s'est passé votre...
Et ma conversion, donc c'était bien plus tard, à la fac, c'était au lycée, j'ai arrêté d'être dans cette tristesse, il y a un moment donné où je suis passée à la colère. Je me suis révoltée, où j'ai dit que dans ma vie, je changerais le monde. Parce que si ce monde n'avait pas de sens, et ben au moins que ceux qui souffrent, je puisse leur venir en aide. Et donc là-dedans, je me suis engagée en politique, plutôt dans tous les milieux d'extrême gauche. Voilà, donc j'étais persuadée que c'était par là qu'on allait changer le monde. Et je suis arrivée à l'Université catholique de Lyon en première année, en droit, où là j'ai rencontré des jeunes catholiques, entre autres. Qui m'ont interpellée par la communion fraternelle qui vivait entre eux et par le regard qu'ils posaient sur moi, par les discussions qu'ils avaient avec moi. Ils aimaient discuter avec moi intellectuellement et en revanche ils donnaient des réponses qui étaient sans agressivité, quelque chose de très paisible, de très doux. Voilà, et à force de les fréquenter, j'ai reconnu que jamais au cours de mon histoire je n'avais vu des gens qui s'aimaient autant et qui parlaient comme ils parlaient et qui avaient cette sagesse et cette douceur et qui semblaient être eux-mêmes complètement joyeux. C'était la première fois que je voyais ça. Voilà. Et puis j'ai eu une de mes amies qui m'a proposé à un moment donné de venir réviser dans un monastère. Alors moi j'étais de l'autre côté. Hein. Je pensais que la religion était une invention des hommes et qu'elle était faite pour asservir le peuple. Elle m'a dit oui mais écoute, bon, on va pouvoir réviser dans ce monastère, on sera en silence et on n'aura qu'une chose à faire, c'est travailler. Donc j'ai dit d'accord parce que j'avais un peu de mal à travailler. Et là-bas quand j'y suis allée, le vrai témoignage que j'ai eu, c'est de rencontrer les chrétiens qui étaient donc à l'hôtel de ce monastère, et donc l'église dans sa dimension familiale, vraiment, est bienveillante. Et puis avec mes amies, là, elles ont commencé à me montrer la manière dont elles priaient, et c'était souvent des prières en silence pendant une demi-heure, trois quarts d'heure, donc elles étaient là dans l'église, et moi j'étais à côté, je parlais à personne, parce que je pensais qu'il y avait personne, alors je n'ai pas parlé à quelqu'un qui n'existait pas. Mais au bout d'un moment, je me suis quand même dit, mais enfin, qu'est-ce qu'elles font pendant une demi-heure, là, en silence? Il y a bien un truc qui se passe Voilà, et donc à un moment donné, en toute humilité, je pense que c'est là que le Seigneur vient nous parler aussi. J'ai fait pareil, toute seule, je me suis agenouillée et j'ai dit, bon bah Seigneur, Jésus, si vraiment tu me connais, si t'as un plan pour moi, si tu existes, si c'est toi la clé, si c'est toi la vérité, viens maintenant. Parce que bon, sinon, moi je l'ai dit, mon combat ce sera de sauver le plus de vies possible, à force de mes petits bras, voilà. Et alors à ce moment-là, c'est une expérience de prière très forte, hein, mais j'ai senti le Christ présent, ressuscité, dans sa plénitude d'amour pour moi, et dans son désir de commencer une relation intime avec moi. Voilà. Et de cette expérience-là, après est venue ma conversion. Il y a un saint qui disait, il existe dans le cœur de l'homme un vide qui a la forme de Dieu, et que seul lui peut venir remplir. Et ça, c'était ce vide-là, c'était la raison de toute ma souffrance. Et à ce moment-là, il a pris sa place, parce que je lui avais laissé, bien sûr. Voilà.
Eh ben, merci beaucoup d'être venu ce matin nous parler de cette magnifique école, Jeunesse Lumière. Tout est dit par ce mot de la fin. Si vous êtes intéressé, si vous avez envie de faire une année, alors si vous avez quand même moins de 30 ans, hein, je le rappelle, vous tapez Jeunesse Lumière sur Internet et puis vous trouverez le site Internet de cette école et ils sont au bout du fil pour vous répondre à toutes vos questions. Merci beaucoup et longue vie à Jeunesse Lumière. Cette émission a été réalisée par Christophe Aubry. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site Internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain.